Merci Tiffaine, bon week-end. Deux invités, un homme qui marche, une nuit au musée, une aventure intérieure et de l'écriture comme transformation de soi ou en soi, avec le poète et écrivain Charles Julliez et l'écrivaine Lydie Salvert.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Et je me demande si, sous prétexte de travailler, ce n'est pas simplement une certaine manie qu'on a, hein, comme d'autres manies, de tripoter de la terre, sans que ça donne d'ailleurs beaucoup de résultats, où le résultat est presque secondaire, enfin. Puis ça n'est pas comme ça quand même. Enfin.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce n'est pas comme ça quand même?
Oui, c'est de la manie, mais en même temps, il y a quand même la volonté d'arriver à quelque chose plutôt pour s'en défaire. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir avec la sculpture au plus vite.
Et cependant, vous recommencez toujours.
Ben, puisque je n'arrive pas à la commencer. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais commencé, en fait. Hein. Je n'ai jamais touché, au fond. Alors, une fois qu'elle serait commencée, elle serait pratiquement finie, je crois. Et je ne voudrais pas se passer toute la vie, hélas, ça va être ça, en faisant de la sculpture. Parce qu'enfin, j'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'était exactement le domaine où j'y comprenais le moins. Alors, en fait, il fallait passer outre et faire autre chose qui me convenait mieux. Je ne pouvais pas supporter ce domaine qui me sapait complètement. Donc, il fallait faire de la sculpture, et au fond, pour s'en débarrasser. Hein, j'espérais d'en comprendre assez vite, assez, pour faire autre chose. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. Mais enfin, ce n'est pas... Il n'y a pas de choix.
Donc, pour vous, c'est jamais le sentiment d'une réussite.
Il ne peut pas y avoir une réussite, parce que réellement, ce que ça peut être aujourd'hui la sculpture et à quoi elle peut correspondre, je n'en sais encore rien. Enfin, c'était jusqu'à maintenant des essais ratés, parfaitement ratés. Quoi, des recherches de... Ça n'était pas faire de la sculpture, c'était tâter le terrain pour trouver où on pourrait bien en faire.
Charles Julliez, Lydie Salvert, bonjour.
Bonjour,
bienvenue à tous les deux. Alors c'est sur la voix d'Alberto Giacometti que nous ouvrons cette heure ensemble. Sculpter, ce serait au fond en finir avec la sculpture. Un mot donc pour commencer, Charles Julliez, cette idée de faire pour se débarrasser, ou en tout cas de faire pour s'en défaire, est-ce que c'est une idée qui pourrait s'entendre en parlant, par exemple, du processus d'écriture?
Oui, Giacometti disait que il faisait en défaisant. Et il explique très bien qu'il reprenait sans fin ses sculptures, qu'il ne jugeait jamais finies. Et il a donc été toujours très divisé entre sa volonté de copier la réalité et en même temps de faire passer sa vision. Et en fait, il a beaucoup, beaucoup travaillé, échoué. Et ça n'est que après la guerre, en 1946, alors qu'il avait donc 45 ans, qu'il a véritablement commencé son œuvre, celle par laquelle on le connaît. Donc il y a eu auparavant bien beaucoup de tâtonnements, d'interrogations, de doutes, d'échecs, et il n'arrivait pas justement à faire coïncider à la fois la réalité et sa propre vision. Donc il explique parfois assez longuement dans ses textes comment il était gêné peut-être par un trop grand savoir, parce qu'il s'était souvent rendu au Louvre, où il disait qu'il avait tout le Louvre dans la tête, tellement il avait copié d'œuvres, Mais après, ses œuvres, elles finissent par créer un écran entre lui et ce qu'il veut faire. Donc, parfois, il faut beaucoup de temps pour oublier ce qu'on a pu apprendre.
Trop de possibilités de sculpture, disait-il, entre lui et la sculpture. Voilà. Trop d'épaisseur.
Donc, il a eu à faire tout ce travail pour se désencombrer de ce trop grand savoir qu'il possédait. Il était nécessaire qu'il acquière cette connaissance, ce savoir, mais après, bien sûr, il a fallu qu'il s'en libère.
Lydie Salvert, peut-être juste pour revenir sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette idée justement de la création qui serait une façon de se débarrasser de quelque chose.
Mais il me semble qu'il y a quelque chose de vraiment commun entre le geste de Giacometti, infiniment renouvelé, infiniment ressassé, pour attraper l'irreprésentable. Il me semble qu'il y a ce même effort de l'écrivain pour aller vers l'indicible, l'innommable, puisque les mots sont incertains, puisque les sentiments souvent sont difficiles à dire et à préciser. Il me semble qu'il y aurait des choses effectivement communes entre les deux gestes.
Alors on va évidemment y revenir, ces points de jonction ou à ces points communs entre les deux gestes. Vous y faites référence d'ailleurs, Lydie Salvert, dans votre livre. Et de Giacometti, il sera question donc aujourd'hui avec l'une comme l'autre. Hein. Lydie Salvert, c'est auprès de son homme qui marche, du moins de l'une de ses trois versions, que vous passez une nuit seul au Musée Picasso à Paris. C'était à l'hiver 2016, je crois, hein. une nuit de fureur et d'introspection. De quoi réfléchir à la construction de votre rapport à l'art et à son pouvoir d'intimidation, et évidemment à ce qui vous tient ou vous retient dans cette figure qui marche comme dans celle de l'artiste suisse, et puis de quoi faire, bien sûr, finalement surgir un livre, récit de cette nuit pour le moins turbulente, Marcher jusqu'au soir aux éditions Stock. Alors c'est quelques 30 années plus tôt que vous publiez Charles Juliet pour la première fois un sobrement titré Giacometti, hein, qui reparaît aujourd'hui en format poche chez POL, parution qui sera suivie d'entretiens notamment avec Soulages, rencontres avec Bram Van Velde, Raoul Ubach, Fabienne Verdier plus récemment, ou encore un essai sur Cézanne, autant de textes qui se glissent entre vos poèmes et l'édition régulière de votre journal, hein, dont le dernier volume, le 9e, titré Gratitude, apparu en 2017, toujours aux éditions POL. On entendait à l'instant donc la voix de Giacometti, avant que de parler de l'œuvre, hein, évidemment. Qu'est-ce que vous y entendez, Charles Juliet, dans cette pensée à voix haute, hein, parce que c'est vraiment ce à quoi on assiste, hein, quand on écoute ces entretiens, ces nombreux entretiens que Giacometti a pu donner, dans cette façon de dire, vous qui, alors peut-être comme Lydie Salvert, êtes de ceux qui ont besoin de l'écrit pour former une pensée. Ce qui ne semble pas être le cas de Giacometti.
Bien sûr, la difficulté, elle est identique, hein, pour Giacometti et pour nous qui écrivons, parce que dès qu'on se met à écrire, il faut tenter évidemment de restituer dans des mots ce que l'on a vécu, éprouvé, des sensations, des sentiments, des passions, des idées. Mais là aussi, on retrouve la grande difficulté de Cézanne. Comment capter une sensation sans toutefois la déformer, et comment arriver à la restituer dans des mots. Bien sûr que c'est un immense travail, et que parfois on peut se décourager, tant la difficulté est grande, parce qu'il y a tellement une telle discontinuité entre ce qu'on éprouve et les mots et le langage, il faut arriver évidemment à diminuer cette distance qu'il y a entre le vécu et ce qu'on va exprimer.
Ce précipice, disait Virginia Woolf. Oui. Elle disait qu'il y avait un précipice.
Oui, bien sûr. Un gouffre, quoi. Hein. Et parfois, évidemment, on se sent écrasé, hein, entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on est capable de faire. Tout à l'heure, ça me faisait penser à Bram Van Velde, ce peintre que j'ai connu, donc, et qui disait « Je peins l'impossibilité de peindre ». Vous voyez ? Eh bien, c'est un peu le cas de Giacometti. Et c'est ce que nous éprouvons, nous aussi, quand nous écrivons.
Et lorsque vous parlez aussi, hein, puisque c'était aussi ça la question sur la façon dont Giacometti s'exprime à l'oral, hein, qui est une façon très particulière, très claire, où on a vraiment le sentiment qu'il pense en parlant, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors il y a la voix, il y a aussi ses mains immenses, hein, les mains de maçon, les mains de votre père, dites-vous, Lydie Salvert. Qu'est-ce que la silhouette, l'allure de Giacometti vous raconte? Vous qui vous attardez hein, sur ce corps, sur cette silhouette de Giacometti dans votre livre, vous qui confrontez même cette silhouette inévitablement à celle de Picasso.
Oui, j'ai l'impression que c'est deux mondes absolument éloignés. Donc Giacometti, comme on l'a dit et redit, qui ne trouve pas, qui cherche et qui aime chercher, qui aime la recherche, qui aime l'inattendu qui arrive dans la recherche, l'inespéré. Il ne ferait que chercher. D'où la difficulté d'achever. Il disait « je n'achève pas, j'abandonne ». Picasso, c'est l'inverse. C'est trois traits foudroyants. C'est je conquiers, je prends possession. Je suis le roi. Je suis Dieu. J'achève et aussitôt je recommence. Pour Giacometti, prendre possession est impensable. La prise de possession lui est étrangère. Il approche. Ce qu'il aime, c'est approcher. C'est le chemin pour approcher.
Cette question de la prise de possession, c'est aussi quelque chose, au fond, qu'on peut presque distinguer dans les corps même, oui. De l'un et l'autre,
oui,
le rapport à l'espace que l'un et l'autre ont.
C'est vrai que Picasso a l'air conquérant sur les photographies qu'on a de lui. Et chez Giacometti, je trouve qu'il y a dans son visage une humilité extraordinaire. Alors que c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui lutte, qui combat.
Qui insiste, comme il disait tout à l'heure.
Et qui insiste infiniment.
Alors, je le disais tout à l'heure, Charles Julliez, ce court texte hein, reparaît plus de 30 ans après sa première publication. Comment est-ce que vous le regardez aujourd'hui, ce texte Giacometti? Est-ce que votre rapport à cet artiste-là s'en est trouvé?
Je l'avais totalement oublié.
Voilà, c'était ça ma question.
Pour cette émission, je l'ai relu pour savoir ce que je disais, mais il est évident que rien n'a bougé dans ma tête concernant Giacometti. C'est très rare aussi, non seulement il était un sculpteur, mais il était un peintre et un dessinateur. Et il y a des toiles de Giacometti qui sont absolument admirables, qui sont des toiles inachevées, et qui exprime aussi tout à fait ce qu'il avait à dire. Quoi.
On va en reparler, bien sûr. Alors évidemment, à vous entendre, Charles Julliez, ce que vous en pensez n'a pas changé, ça va sans dire. En revanche, ce qui pourrait bouger en 30 ans, c'est vous, la façon dont vous le recevez, c'est-à-dire le rapport que vous avez avec Giacometti, de la même manière que vous avez fréquenté pendant un temps Beckett, par exemple. J'imagine que vous en pensez toujours la même chose, mais il y a eu un moment où vous avez eu besoin de vous en détacher. Donc la question, c'était de savoir si en 30 ans, j'allais dire le vilain mot, l'usage que vous pourriez faire de Giacometti aurait été modifié.
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup évolué, j'ai parcouru tout un chemin. Je reviens sur ce que vous disiez concernant Beckett, je l'ai très peu connu, hein, je ne l'ai rencontré qu'à 4 reprises. Et il est vrai qu'après avoir beaucoup lu cette œuvre, eh bien, je m'en suis beaucoup éloigné, parce que j'étais très loin de ce que racontait Beckett, hein, quand il dit, dans L'innommable, qui est à mon sens son plus grand livre, il dit que « ce soir, je n'ai plus le courage de me voir pourrir ». Donc moi, dans ma propre évolution, j'allais au contraire de plus en plus vers une adhésion à la vie, une adhésion à moi-même. Donc je ne pouvais plus coïncider avec ce qu'il disait. Par ailleurs, lorsque j'avais vu, je ne sais plus son nom, qui disait « premier amour ».
Samy Frey, peut-être.
Samy Frey, oui, bien sûr. Eh bien, cette vision de l'amour de la femme m'avait plutôt... Profondément irrité, agacé. Enfin, je rejetais complètement tout ce qu'il disait Beckett. Il faut savoir que Beckett, après avoir achevé ses études, avait été victime d'un effondrement psychique qu'il a laissé pendant de longues années dans une profonde dépression. Donc forcément, sa vision ne pouvait être que sombre, que tragique. Et moi, donc, après l'avoir lu, j'ai vraiment eu le besoin de m'en éloigner. Et depuis ce temps, il y a déjà pas mal d'années, je n'ai plus jamais ouvert un livre de Beckett.
Beckett qui aimait beaucoup Giacometti, hein, par ailleurs, oui. Ce qui nous fait un lien de plus. Vous en parlez d'ailleurs aussi, Lydie Salvert, oui, oui. Dans votre texte. Votre Giacometti, Charles Juliet, chemine très clairement, hein, c'est-à-dire une première partie, disons, calée dans la biographie de l'artiste, hein, avec son enfance dans le canton suisse des Grisons, son père peintre, sa précocité, les premiers voyages en Italie. Le Tintoret, Giotto, la mort devant lui, hein, d'un
vieux bibliothécaire. Oui, ce qui est important, dont il faut parler, hein, parce que...
Je vous en prie. S'il faut en parler.
Oui, oui. Giacometti raconte qu'une fois, lors d'un voyage en Italie, il avait rencontré un vieil homme qui était, je crois, néerlandais. Hein, et ils avaient sympathisé, puis ils s'étaient perdus de vue. Et après... Un ami de Giacometti lui dit « Mais écoute, j'ai trouvé dans le journal une petite demande de cet homme. Il aimerait retrouver ce jeune garçon avec lequel il avait sympathisé. » Donc il donne cet article à Alberto Giacometti. Et donc Alberto renoue contact avec cet homme. C'était en plein hiver et donc il se trouve de passer un col enneigé, je crois, en Autriche. Et donc, pendant cette courte excursion, ce vieil homme prend froid. Il est conduit à l'hôtel ou peut-être tout de suite à l'hôpital. Et finalement, il meurt comme ça. Et donc, Giacometti dit qu'il a eu l'impression d'avoir été attiré dans un véritable guet-apens. Parce qu'il pensait aller en Italie accompagné de ce vieil homme, et tout à coup, il se trouve face à un mort, alors que lui-même était très jeune, hein, il avait, je ne sais pas, 20, 22 ans. Et donc, ça a été déterminant pour lui. Et il dit qu'à partir de ce moment-là, tout lui a paru dérisoire, si vous voulez, et toute possession lui paraissait incompréhensible. Donc, il dit qu'à partir de ce moment-là, il a toujours préféré vivre... d'une manière précaire ou dans des hôtels, vous voyez, dans des lieux de passage.
Pourquoi fallait-il en parler, Lydie Salvert ? Parce que vous aussi, vous vous attardez sur cet épisode. Hein.
Oui, il dira que toute sa vie, dans le visage des vivants et dans le visage d'Annette, il peut voir un visage mort. Et c'est vrai qu'il y a quelques portraits d'Annette, où elle a les yeux dont on ne sait si ce sont des yeux de vivants ou des orbites d'un crâne de mort. Et il disait cette chose aussi qui m'a impressionnée, c'est qu'un mort, c'est laid, c'est jaune, ça a la couleur de cire. La mort, c'est moche. Le monde autour est indifférent. Il dit qu'il aurait pu parler de façon lyrique ou métaphysique quelques années avant qu'il ait cette expérience et que cette expérience lui donne une idée de la mort. L'aide.
Charles Juliet, est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, peut-être, des toutes premières pages, en fait,
si vous voulez, je vous lis le début.
Si l'on accepte, le début, pour être tout à fait honnête, hein, le début démarre par un poème.
Et je dis donc, cette sculpture de Giacometti, là, dressée devant moi, et en laquelle, au premier regard, j'ai reconnu une femme, un corps de femme, effilée, gracile, comme dégagée de la matière, soustraite à la pesanteur, surgissant d'un socle lourd, massif, qui la rime à la terre. Gracile, mais dense, si près de n'être rien, mais s'affirmant avec vigueur. Précaire, mais hiératique, souveraine, donnant l'impression d'une force que ni le temps ni la mort ne pourrait entamer. Coexistence des contraires, coexistence en l'être humain des données et des aspirations les plus contradictoires. Pour Giacometti, qui s'était proposé d'exprimer la totalité de la vie, il fallait dire l'angoisse, la solitude, la mort qui menace, la blessure d'une existence à jamais coupé de l'absolu, mais tout autant les forces, la beauté et le mystère de la vie. Toutefois, comment faire cohabiter en une œuvre des éléments difficilement conciliables qui se contrarient, voire s'excluent? C'est au terme de quelques 25 ans de recherche que Giacometti trouva une solution à ce problème. Mais avant d'en arriver là, que d'études, d'investigations, d'échecs, de crises et de recommencements.
Merci. Ce sont donc les toutes premières pages de votre essai que vous venez de nous lire, Charles Julliet. Je voudrais revenir sur un autre extrait, parce que, alors en fait, vous tressez véritablement le texte de description d'œuvres, quelques-unes, dont une en particulier qui s'appelle La pomme sur le buffet, qui est une peinture, une toile qu'il peint à un moment, un long moment de crise, c'est-à-dire ce moment où après le surréalisme et avant la vision dont on va parler pas plus tard que tout de suite, durant ces années-là, il cherche, il détruit beaucoup, alors il insiste, mais il cherche, il recommence, il recherche, il re-recommence. Et donc vous vous attardez sur cette peinture qui s'appelle La pomme sur le buffet, que vous décrivez très attentivement, et que vous décrivez comme étant une toile dans laquelle on trouve déjà, au fond, tout ce qui...
Un peu l'amorce,
Voilà, tout ce qui pourrait faire Giacometti. Sur l'écriture de la peinture à proprement parler, c'est-à-dire sur ces moments de description, il y en a d'autres dans le texte, description extrêmement précise des œuvres de Giacometti, je me demandais quels enjeux à la description pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que cet exercice-là vous demande à vous, qui est un exercice qu'on connaît bien, qui est un exercice ancien, qu'est-ce que ça vous demande de l'écrire? Est-ce que la quête du mot juste s'y installe tout pareillement que lorsque vous écrivez n'importe quel texte?
Bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est que de décrire en deux mots une toile, une sculpture, une peinture?
Tout est semblable parce que il y a toujours les mêmes constantes dans la réalité humaine. Et tout ce que j'ai dit sur Giacometti, je l'ai plus ou moins redit aussi sans doute sur Cézanne, vous comprenez, c'est toujours les mêmes problèmes qui se posent quand les gens vont évidemment porter par leur passion au maximum de ce qu'ils peuvent penser, ressentir, et donc vouloir tenter de décrire une œuvre de Giacometti, c'est évidemment s'approcher au plus près de sa vision, de ce qu'il voulait réaliser, bien sûr, bien sûr. J'ai aussi beaucoup lu, il y a des très beaux textes de Giacometti, j'en étais imprégné. Mais surtout, ce que je dois dire, ce qui m'a le plus appris, c'était une longue étude de Jacques Dupin, le poète Jacques Dupin, qui était, je dirais, un des piliers de la galerie Mag. Et comme il écrivait fort bien, il a écrit un essai sur Giacometti qui est absolument indispensable si on veut connaître Giacometti.
Qui aura décidément fait beaucoup écrire, parce que évidemment on va parler aussi de
Genet, de Bonnefoy,
de
Léris.
De beaucoup
d'écrivains.
Alors vous parliez à l'instant de détails et d'ensemble, on écoute à nouveau Alberto Giacometti.
Si on veut faire une tête, il faut commencer à s'accrocher à 2 cm carrés de cette tête. Où on s'en sort là ou nulle part. Dont en fait, depuis des années, ou depuis toutes les dernières années, je ne fais toujours que le même sujet, à peu près, c'est pas monotone, en essayant toujours la même chose, et me limitant de plus en plus à un détail, comme un nœud qu'il faudrait défaire, ou on le défait et on avance, ou sinon on est absolument perdu. J'ai l'envie de peindre, disons, n'importe quoi, aussi bien des têtes que des arbres, que des natures mortes, que n'importe quelle chose que je vois. Je me tâche plutôt aux têtes parce que c'est tout de même le plus complexe. Et si j'arrivais à réaliser un peu une tête, du même coup, je réaliserais une figure et l'espace dans lequel elle se tient et tout ce qui pourrait l'entourer, n'est-ce pas? Par contre, le contraire n'est pas vrai. Si j'arrivais à avancer un peu avec une pomme, je n'arrive pas par là à faire une tête. Par contre, si j'ai la tête, j'ai la pomme aussi.
Alberto Giacometti, au micro de Paul Chavassin, c'était en 59. Charles Julliez, cet émerveillement ou cette curiosité éprouvée devant n'importe quoi, hein, c'est ce qu'il dit au fond, qu'il pourrait peindre, ou qu'il aurait envie en tout cas de peindre n'importe quoi, c'est ce qui ferait de Giacometti un artiste ou un peintre, comme vous le suggérez, qui emprunterait des voies mystiques.
Oui, moi, c'est ce qui me frappe, hein. Parce qu'il parle parfois de ses visions, et il dit en même temps qu'il y avait un très grand silence. Il dit qu'après être allé aussi dans une salle de cinéma à Montparnasse, quand il était revenu à la réalité, hein, il était transformé, et il dit, je pourrais vous le dire ça, la vraie révélation, hein, je le cite, le vrai choc qui a fait basculer toute ma conception de l'espace et qui m'a mis définitivement dans la voie où je suis maintenant. Je l'ai reçu en 1945 dans un cinéma. Je me rappelle très bien, c'était aux Actualités à Montparnasse. Bien entendu, le film n'a fait que concrétiser des aspirations confuses. Ça n'a pas été la cause profonde. J'ai regardé les voisins et du coup, je les ai vus comme je ne les avais jamais vus. Le nouveau n'était pas ce qui s'est passé sur l'écran, c'était ceux qui étaient à côté de moi. Ce jour-là, je me souviens très exactement, en sortant boulevard Montparnasse, d'avoir regardé le boulevard comme je ne l'avais jamais vu. Tout était autre, et la profondeur et les objets et les couleurs et le silence. Tout me semblait autre et tout à fait nouveau. Le boulevard Montparnasse prenait la beauté des mille et une nuits, fantastique, totalement inconnue. J'avais tout d'un coup conscience de la profondeur dans laquelle nous baignons tous et qu'on ne remarque pas parce qu'on y est habitué. La profondeur métamorphosait les gens, les arbres, les objets. Il y avait un silence extraordinaire, presque angoissant. Car le sentiment de la profondeur engendre le silence, noie les objets dans le silence. Donc il y avait la curiosité d'en voir davantage. C'était, si vous voulez, une espèce d'émerveillement continuel de n'importe quoi. Évidemment, j'avais envie d'essayer de peindre ou de faire une seule peinture de ce que je voyais. Ce jour-là, la réalité s'est revalorisée pour moi du tout au tout. Elle devenait l'inconnu, mais en même temps un inconnu merveilleux. Et je crois que pour arriver à cette sorte de capacité d'émerveillement, je crois qu'il faut avoir vécu intérieurement un long chemin qui amène un être à s'être totalement désapproprié de lui-même dans un état de grande transparence, et là d'être un peu comme au premier jour et de découvrir tout ce qui existe avec le même étonnement et le même émerveillement. Et c'est ce qu'il dit très bien, Giacometti. Mais on peut très bien retrouver aussi des textes semblables dans de nombreux textes de mystiques. Hein. Et je crois que forcément, quand un artiste, un écrivain vit avec une extrême exigence ce cheminement vers la rencontre de soi-même, mais surtout avec un affranchissement de tout ce qu'il pense, de tout ce qu'il a été, eh bien, il y a une espèce de dénudation et de nudité qui fait que eh bien, l'être voilà, est neuf et voit tout comme si tout était nouveau.
C'est un petit peu de vous que vous êtes en train de parler aussi, Charles Julliez.
Il est difficile parfois de ne pas se projeter dans une œuvre, dans un écrivain, parce que malgré tout, on se reconnaît en lui, hein, bien sûr. On ne s'intéresse véritablement qu'aux personnes et aux artistes avec lesquels on a une profonde affinité. Ça ne peut pas être autrement.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
L'extrait que vous avez lu, hein, vous évoquez donc cette vision, ce point de bascule et puis cet émerveillement qui vient, mais qui est précédé dans un premier temps, c'est-à-dire le moment de cette vision par une forme de terreur aussi, hein, d'une certaine façon. Il le dit, il dit qu'il a des sueurs froides, qu'il est tout à fait terrorisé en fait par ce qui est en train de se passer. Sont des choses aussi qu'on retrouve dans votre livre, Lydie Salvaire. Et sur cette, je me demandais justement à la fois. Alors, bien sûr, il est question d'émerveillement, mais il est aussi question de terreur, il est aussi question de sueur froide. Est-ce qu'il faut forcément en passer par là ? Est-ce que ça serait aussi la condition de la création que cette terreur-là ?
Je crois que cette sorte d'émotion ultime d'une extrême gravité, elle associe en elle un grand bonheur d'être et en même temps une grande douleur. Les deux vont ensemble, c'est surprenant, mais c'est ainsi. Parce que, en fait, nous sommes, je crois, faits de ces deux polarités, vous voyez.
Vous dites ça avec un grand sourire. Lydie Salvaire, vous en êtes d'accord ?
Mais l'homme qui marche réunit précisément ces deux choses dont parle Charles de Juliet si bien. C'est-à-dire un homme dans le dénuement le plus total. Il n'a aucun des oripeaux sociaux que portent d'habitude les hommes. Un homme fragile, vulnérable, solitaire, énigmatique. Et en même temps, un homme qui présente cette merveille d'être debout et de marcher. Ces deux choses associées me semblent très, très belles, je trouve.
Giacometti, vous vouliez rajouter quelque chose, Charles Juillet ?
Parce que j'ouvre mon livre et je tombe là-dessus, c'est une sorte de poème, mais où j'ai essayé peut-être de synthétiser, si vous voulez, tout ce que je percevais de Giacometti. Ainsi dire tout à la fois la fragilité et la force, le besoin de briser les entraves et l'appartenance à la terre, ce qui agresse, violente, déchire, ce qui abaisse, humilie, écrase, et une énergie trempée au feu des épreuves, un infissurable noyau. La précarité, le temps qui use, dégrade, nous pousse vers la mort, et cette ardente, cette impérieuse tension vers l'immuable, l'intemporel. L'angoisse, l'isolement, le tragique de la vie, et la farouche résolution de faire face, de ne pas se laisser vaincre, d'affirmer une dignité.
De Billie Eilish qui nous mène non pas à Giacometti mais à vous, Lydie Salvaire, qui l'écoutez en boucle, m'avez-vous dit en ce moment. À vous, c'est aussi ce à quoi vous mène Giacometti, hein, et au musée Picasso à Paris, musée où, à la demande de votre éditrice, vous vous laissez enfermer une nuit de 2016, seul, tout contre l'homme qui marche, hein, avec un lit de camp, un ordinateur, une couverture, un carnet et un téléphone, dans l'espoir partagé avec votre éditrice qu'en surgisse un livre, espoir récompensé, hein, puisque paraît aujourd'hui Marcher jusqu'au soir aux éditions Stock. Et pourtant, ça commence mal, très mal. Non, je lui ai dit non merci, je n'aime pas les musées, trop de beauté concentrée au même endroit, trop de génie, trop de grâce, trop d'esprit, trop de splendeur, trop de richesse, trop de chair exposée, trop de seins, trop de cul, trop de choses admirables. Maintenant que le livre est écrit, Lydie Salvaire, maintenant qu'on sait que cette nuit, vous avez accepté de la passer dans ce musée, maintenant qu'elle a donné lieu à, disons, à une foule de pensées, de digressions, de souvenirs, d'hypothèses, qu'est-ce qui réellement vous inquiétait dans une telle proposition ?
Je suis très attentive au début d'un livre, aux attaques qu'on lit en musique. J'aime les livres qui ont une attaque vigoureuse.
Qui mordent.
Ou silencieuse et poétique comme la vôtre. Mais je suis très sensible aux attaques. Donc je voulais, après cette expérience, commencer le livre par cette attaque, donc colérique. Alors colère contre moi, qui n'éprouve rien durant cette nuit, alors que j'espérais... Aussi,
vous éprouvez des tas de choses, hein, mais peut-être pas ce que vous attendiez.
Oui, voilà, j'attendais une rencontre avec l'homme qui marche que je n'avais jamais vu qu'en reproduction. Et devant lui, je ne suis que appréhension, inquiétude plutôt, sécheresse de cœur, etc. La rencontre n'a pas lieu. Je lisais juste avant de venir un poème de Céline qui disait « Prends l'art avec toi, prends l'art avec toi et conduis-le sur ta voie la plus étroite. » Je n'ai pas réussi ce soir-là à prendre l'art avec moi, à prendre l'homme qui marche avec moi. Donc colère contre moi, colère aussi contre cet art dit contemporain qui a été pris en otage par quelques financiers, quelques artistes internationaux, quelques galeristes chics, au détriment de toute une scène artistique qui cherche et qui trouve d'ailleurs. Et puis très vite, je me dis que c'est un nouveau conformisme que de cracher sur l'art dit contemporain et presque une position réactionnaire. Et je décide plutôt de voir comment, en moi, s'est constitué ce rapport à la littérature et à l'art en général.
Charles Julliet, vous pourriez vous soumettre à une telle expérience, c'est-à-dire seul dans un musée? Est-ce qu'il y a une œuvre auprès de laquelle vous aimeriez vous endormir?
D'abord, j'aurais eu peur.
Mais Lydie Salvert a eu peur.
Je comprends très bien ce que vous avez dit, parce que pendant très longtemps, moi aussi, je n'osais pas entrer dans une librairie, et encore moins dans un musée, vous voyez. Et puis c'est vrai que le poids de toutes ces œuvres, eh bien, vous écrase. De même que quand je commençais à écrire aussi, j'étais écrasé par le poids des grandes œuvres du passé. Et vous savez, c'est pas constamment qu'on est apte à savourer quelque chose. Hein. Un jour, on je sais pas, dans une exposition, tout à coup, une œuvre vous parle, vous émeut profondément, et là, il y a un choc, vous savez. Mais c'est pas continuellement qu'on est apte à recevoir quelque chose d'une œuvre. Par ailleurs, on peut aimer une œuvre, mais sans tout aimer. Parce qu'il y a même dans les œuvres, certaines œuvres particulières qui vous parlent moins.
Quand vous dites que vous auriez eu peur de quoi, Charles Joliet?
Peur d'être seul, comme ça, dans une grande solitude, puis surtout de vivre une expérience qui n'est pas courante. Donc c'est encore un face-à-face avec soi-même, et parfois, évidemment, ça suit un peu dans la crainte. Et donc, oui, j'ai bien compris tout ce que vous avez pu éprouver.
Alors cette colère-là, dont on a lu un tout petit...
Que je partage tout à fait. Hein.
Un tout petit extrait, Lady Salver, hein, la première sera suivie de quelques autres, hein, colère, cette nuit-là, colère contre l'homme qui marche, hein, que de colère vous envisagez même de moucher, contre l'art contemporain, vous l'avez dit, contre ses fausses indignations, contre sa toute-puissance, contre le pouvoir d'intimidation du musée, de l'art, contre vous-même, donc hein, sèche et sans émotion face à la dite sculpture, contre votre compagnon sur qui vous vous défoulez au téléphone. Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Lydie Salvert, et il y a question de colère.
Mais le silence autour de moi devenait de plus en plus oppressant. Les objets qui m'entouraient, tous les objets, me semblaient à présent hostiles. J'avais le sentiment qu'il m'assaillait. Je frissonnais. Je n'éprouvais rien d'heureux. J'étais comme ce chien de Giacometti que j'avais aperçu de loin dans l'une des salles du musée en me promettant d'aller le revoir. Malheureux, misérable et complètement perdu. Le monde n'avait pas basculé comme je l'espérais. Je n'avais pas pris la mer. J'étais restée à quai. Aucune tempête ne m'avait traversé le corps et le sang de mes veines était resté figé. Les œuvres exposées ne m'avaient apporté aucun bien et l'événement promis n'était pas advenu. Je n'étais que déconvenu, avec en même temps un pénible sentiment d'infériorité, le sentiment de n'être pas à la hauteur de ses sublimités, ou pire, le sentiment de les gâcher, le sentiment d'être dans un état d'hébétement profond, comparable à celui qui me terrassait lorsque j'étais filmé par la télévision. À cette idée, à ce souvenir de ma stupidité télévisuelle,
à ce rappel de mon incapacité à formuler de longues et séduisantes phrases dès lors que j'étais filmée dans un studio télé, je fus prise d'une grande colère. D'une grande colère contre un système qui jugeait de la valeur d'un écrivain, non sur la qualité de ses écrits, mais sur ses putains de prestations télé. Je fus prise d'une grande colère contre un système qui ne promouvait que ceux qui avaient appris, dès le berceau, à formuler de jolies phrases, car ils avaient des papas-mamans rompus à l'art de papoter, et non des enfants de broc, des enfants d'arabe ou d'espagnol. Ceux-ci très désinvoltes avec la grammaire française, car elle ne leur servait à rien dans leur boulot de merde, des arabes et des espagnols qui arrivaient rétamés à la maison après leur boulot de merde et se soulageaient de leur vie de merde en envoyant quelques beignes à leurs mioches, lesquels gardaient, en dépit de leurs études et de tous leurs efforts, pour acquérir un français correct, tel celui du fils Nouret, qui utilisait des mots comme « apori »,« immarcessible » ou épistémologique, et jamais cul, couille ou enculé, et dont mon père disait qu'on voyait bien à l'entendre causer qu'il n'était pas tombé d'une charrette, lesquels mioches, disais-je, gardaient tout au fond d'eux-mêmes la vieille, l'incurable, l'immortelle empreinte des mal-nés, des mal-lotis en matière de langue comme en matière matérielle, des non-propriétaires en matière de langue comme en matière matérielle. »
Merci, Lydie Salver. Cette colère qui est dite d'une voix fort douce, hein, mais qui sont des colères, alors celle-ci, mais d'autres aussi dans le livre, hein, parfois majuscules, lyriques, drôles, hein, très drôles aussi, souvent, hein, dont vous n'êtes vous-même jamais totalement dupe. Cet état de colère-là travaille d'autres livres, pas seulement celui-là. Écrire la colère, au fond, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous convient finalement dans cette écriture-là ? Est-ce que c'est l'effet de vivant que permet la colère dans l'écriture?
Mais sûrement, j'ai un souci, c'est de rendre la langue vivante, qui était le souci de Giacometti, de restituer le vivant. Comment restituer le vivant? Alors, comment restituer le vivant dans la langue? Mais peut-être en la fouettant, peut-être en la secouant, peut-être en lui faisant faire des bonds, peut-être en ouvrant des parenthèses, peut-être en faisant des ruptures. Peut-être en rompant avec le rythme du récit lisse, parfaitement enchaîné, sujet-phrase-complément-point, etc. Voilà, mais la colère était comme instrument pour dire le vivant, pour restituer le vivant, pour rendre le vivant, me semble-t-il. Mais il faut pas s'asseoir sur la colère, voilà. Ça, c'est important, je trouve.
Si on poursuit malgré tout cette piste, alors qui est peut-être un petit peu hasardeuse, hein, Lydie Salver, une autre de ces colères vous revient, en tout cas un souvenir de colère. Hein, vous avez une trentaine d'années, vous êtes invitée à dîner en milieu, disons, culturel distingué. Et on vous rapporte cette phrase, hein, de l'hôtesse à votre propos. Elle a l'air bien modeste. Hein, et de rappeler donc vos origines, hein, fille de républicain espagnol, père ouvrier. De la colère qui suit ce dîner, vous datez possiblement, alors j'imagine avec quelques raccourcis, mais vous datez possiblement votre désir d'écrire ou de devenir écrivain, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que ce serait que ce lien, au fond, entre colère et écriture ?
Moi, je pense aujourd'hui que l'on écrit s'il y a de l'insupportable en nous. Alors l'insupportable qui peut prendre des formes diverses, du manque, de la douleur, de la maltraitance ou de l'insupportable de la joie. Chez Nabokov, il y a un insupportable du bonheur qui le pousse à dire. Il me semble que c'est quelque chose d'insupportable qui nous pousse à écrire. Et cette réflexion, elle a l'air bien modeste, me plonge dans la colère et peut-être me poussera à écrire parce que j'ai le sentiment que tous les efforts que j'ai fait pour acquérir cette dite grande culture tombe à terre, que mes origines sociales sont marquées à jamais sur mon visage, dans mes manières, dans mes façons d'être, de manger, de m'exprimer, etc. Et j'en éprouve de la colère et une forme d'injustice.
Est-ce que écrire pour vous a pu produire une forme de, je sais pas, de sentiment de trahison de classe ?
Alors, ce que j'ai essayé de faire, me semble-t-il, depuis le début, c'est de réconcilier la langue dite populaire et la langue du bien-dire. Vraiment, en les mettant à la même hauteur et sans hiérarchie. chose que faisait à merveille évidemment Rabelais, hein, chez qui on trouvait cet esprit populaire, les jurons, le mauvais goût, les plaisanteries lourdes parfois, et les choses les plus sublimes. Et je m'attache à faire que ces deux formes de culture et de langue s'embrassent et soient inséparées vraiment. J'essaie en tout cas.
Alors, petite parenthèse ou curiosité personnelle, Lydie Selver, parce que là, vous citez Rabelais à l'instant. Vous décrivez aussi dans le livre ce que vous appelez votre maison intérieure. Et l'homme qui marche y prend place, hein, fait partie de cette petite foule qui circule dans ce que vous appelez votre maison intérieure, ainsi que Virginia Woolf, que vous avez déjà cité, Rabelais, Sterne, Artaud, Faulkner, Beckett, et puis Blaise Pascal, hein, qui s'invite un petit peu partout dans le livre, que vous appelez votre dingue préférée. Qu'est-ce qui vous lie tant à ce personnage-là, qui vraiment s'invite à plusieurs endroits, ici et ailleurs?
Mais il a dit cette chose essentielle, que nous passions notre temps à nous divertir pour ne pas affronter le fait d'être mortel. Et le divertissement inclut par la culture et par l'art, et par la littérature, et par la guerre, et par les conflits, etc. C'est Pascal qui le dit de la façon la plus forte, me semble-t-il, et à jamais inoubliable.
Qu'est-ce qui vous avait conduit alors à intégrer Giacometti dans cette maison intérieure? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous avait conduit au fond à l'admirer? Parce que s'il ne se passe rien entre vous et l'homme qui marche cette nuit-là, dans ce musée-là, cette sculpture-là faisait partie déjà de votre maison intérieure, que vous aviez vue, revue, aimée, admirée, mais en reproduction.
Je l'ai déjà un peu dit, mais il me semble que quand il sculpte l'homme qui marche, il sculpte un homme réduit à l'essentiel, à l'élémentaire. Un homme nu, sans babiole, sans fioritures, etc. Et qui nous oblige, en quelque sorte, et c'est peut-être ce qui s'est passé durant cette nuit, à aller vous-même vers votre essentiel. Et peut-être à laisser tomber les masques habituels, peut-être.
Pourtant, vous déployez toutes sortes de stratégies, hein, dans un premier temps, pour ne pas y aller, jusqu'à vous réfugier dans les toilettes, assez longuement. Par ailleurs, alors on écoute à nouveau Giacometti.
Jusqu'à maintenant, ce que je sais, c'est que si je voudrais faire un œil comme je le vois, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi à sculpter, en peinture non plus, mais encore moins en sculpture. Parce que si vous regardez en face, il n'a pas l'air tellement bombé. Il a l'air plutôt, disons, d'une forme allongée, ovale allongée. Si vous le regardez en profil, il a l'air presque tranchant, n'est-ce pas? Alors, c'est deux choses contradictoires, complètement. Et en réalité, c'est bel et bien et large et pointu en même temps. Alors comment voulez-vous faire une chose qui en même temps elle soit ronde et pointue? Le problème est presque comme ça, non? Et par exemple, en face, même si vous avez, on croit que si on a de la terre et je regarde d'une bonne lumière, je devrais pouvoir faire la courbe de l'œil, la modeler comme je la vois. Ben, ça me semble la chose la plus à peu près impossible du monde. Hein? Et impossible pas seulement pour moi, mais pour toujours et pour tout le monde.
À nouveau, Giacometti, donc, qui sculpterait l'impossibilité de sculpter, hein, comme le fit d'une certaine façon Bram van Velde en peinture. À nouveau, des forces contradictoires, hein, dont on parlait tout à l'heure, Charles Julliet. Giacometti, dites-vous, Lydie Selver, qui cultiverait au fond l'échec, ou en tout cas, vous dites même qu'il cultiverait aux petits oignons son art d'échouer, qu'il empirerait même, hein, que vous soupçonnez d'empirer son art d'échouer, qui au fond serait le moteur même de sa création, ce qui donne lieu dans le livre à une sorte de petite typologie des ratés. Hein. Il y a les ratés-ratés, les ratés d'entrée de jeu, les ratés par irrésolution et impersévérance, les ratés réussis, les ratés magnifiques. Catégorie à laquelle appartiendrait votre très adoré Baudelaire, dites-vous, ce qui placerait Giacometti davantage du côté de Baudelaire, pour ce qui est du raté et de l'échec, que du fameux « essayer encore, rater encore » de Beckett.
C'est un raté magnifique. Là-dessus, il n'y a aucun doute.
Qu'est-ce que c'est qu'un raté magnifique?
C'est un raté
et dont le résultat du ratage est magnifique.
Comment est-ce que vous voyez, Charles Julliez, vous, cette notion d'échec ou de ratage comme une condition, comme la condition même de la création?
Oui, il a intégré l'échec à son travail et à sa réussite aussi, bien sûr. Manifestement, il a laissé une œuvre extrêmement importante. Ce qui est étonnant, c'est que en une seule sculpture effilée, il arrive à dire la fragilité de l'être humain et également cette force qui lui permet de tout affronter. Vous voyez, en une seule sculpture, une seule image, en fait, il nous dit toute la condition humaine. Et c'est ça qui est prodigieux.
Et puis je crois que l'échec est galvanisant pour lui. Au lieu que l'échec le désespère, comme il désespérait Virginia Woolf, comme il peut désespérer certains, j'ai l'impression qu'il trouve une forme de jubilation dans l'échec. Éric Dupin le dit, loin d'être désespéré, il éprouve une passion presque joyeuse à recommencer infiniment. Je crois que ça ne l'intéresse pas d'achever. Je crois que ça ne l'intéresse pas d'en finir, quoi qu'il dise. Et je crois qu'il va mettre 4 ans pour faire le portrait d'un Japonais dont j'oublie toujours le nom. 4 ans, sans cesse, à venir et revenir. Et je crois qu'il va faire 40 ébauches de l'homme qui marche avant d'être à peu près satisfait pour l'une de ses 3 ou 4 versions. Donc, une passion, c'est une passion. Ce qu'il aime, c'est le chemin vers la chose. Et tous les empêchements qu'il trouve sur le chemin, et tous les inattendus qu'il trouve sur le chemin, et tous les échecs, c'est ça qu'il aime.
Est-ce que ça voudrait dire, Charles Julliez, que c'est le caractère vain de son entreprise qui, au fond, le ferait continuer à insister ?
Le doute, il est toujours à la racine de toute œuvre. Et moi, je sais que j'ai beaucoup progressé à partir du jour où j'ai accepté de rater et de perdre. Parce que pendant longtemps, comme je n'arrivais pas à atteindre ce que je voulais faire, je détruisais tout ce que je faisais. Et après, je me suis aperçu que de toute manière, on ne peut que rater à dire ce que l'on veut dire. Hein. Et à partir de ce jour-là, j'ai pu beaucoup mieux travailler.
Non, mais il y a aussi de belles choses dans l'affirmation, je trouve, aussi bien. Chez Nietzsche, il y a de l'affirmation. Chez Picasso, il y a de l'affirmation. Il y a quelques gestes affirmatifs très beaux, qui sont aussi beaux que les refus et les échecs.
Vous terminez d'ailleurs, Lady Salver, par Picasso. Au fond, on a presque l'impression que c'est lui qui gagne à la fin.
Non.
En même temps, vous retournez au musée après, et quand vous sortez de ce musée...
Oui, parce que je suis allée dans un musée qui est habité, qui est fréquenté par d'autres humains. C'est ça qui rend la vision de l'art possible aussi.
Ce que disait Giacometti d'ailleurs, qui au fond, à la fin, s'intéressait moins à ce qu'il voyait au Louvre...
Il préférait les visages,
que les visiteurs que les tableaux, du Louvre.
Oui.
Giacometti qui dit à la toute fin... je deviens fou, je ne me reconnais plus, je n'ai plus envie de travailler, à la religieuse qui le veille à l'hôpital en janvier 66. On a beaucoup parlé donc de cet acharnement de Giacometti, de cette insistance, de cette manie, de cette patience. Est-ce qu'il vous est arrivé, Charles Julliez, peut-être Lydie Salver aussi, d'être tenté de poser le stylo, de ne plus avoir envie?
Mais très souvent, très souvent, très franchement, bien sûr. Et surtout quand il m'est arrivé de lire des œuvres qui m'impressionnaient fortement, comme « Louons maintenant les grands hommes » de Jamsaji, cet écrivain américain. Eh bien, il a écrit une œuvre tellement exceptionnelle au niveau de la sensibilité qu'il révèle et au niveau de cette écriture, qui est une écriture mais profondément poétique, parce que cet homme avait vraiment, mais vraiment une sensibilité exceptionnelle. Et c'est lors d'un voyage en Alabama, où il a eu à aller faire un reportage sur des petits blancs pauvres, chez des métayers, qui, curieusement, plus ils travaillaient et plus ils s'endettaient. Et Jamsadji, cet écrivain, a été totalement bouleversé par ces personnes qu'il a rencontrées. Et c'est vrai que ce livre, après que je l'ai lu, eh bien, il me persuadait que voilà, il fallait poser le stylo et s'arrêter d'écrire, vous voyez. Mais vraiment, quoi, vraiment. C'est une œuvre tellement forte et tellement au-dessus de tout que j'étais écrasé, bien sûr, bien sûr.
Dit Salvaire.
Mais je crois qu'après chaque livre, j'ai le sentiment que je ne pourrais pas m'y remettre. Et puis, jusqu'à présent, ça revient. Mais ça n'est jamais garanti. Jamais, jamais.
Lydie Salvaire, Charles Julliet, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci.
Eh bien.
Est-ce que nous avons dit l'essentiel ?
On est arrivé.
J'espère.
J'ai beaucoup aimé votre mère, hein. Je l'aime toujours.
Oui, hein. Ma mère.
Parce que j'ai été aussi, enfin, je m'étais beaucoup intéressé à travers la poésie espagnole,
oui.
Machado,
oui.
Et surtout, je ne sais pas si vous avez lu Blas de Otero.
Non, oui. Mais on me dit qu'il faut...
Oui, j'ai beaucoup aimé cet homme aussi. Enfin, parce que, en fait, c'est à travers son œuvre, enfin, son œuvre, à travers un livre de lui traduit en français par Claude Couffon.
Qui s'appelle comment ?
C'était Parler clair. C'est par lui que j'ai découvert la littérature contemporaine, la poésie contemporaine. Ouais. Puis après, j'ai beaucoup lu Machado, bien sûr. Bien sûr que j'aime beaucoup, beaucoup. À la fois l'homme et l'œuvre. D'ailleurs, je ne peux pas dissocier. Si je n'aime pas l'homme, je n'arrive pas
à... Oh, mais je suis comme vous.
La femme, hein,
je
ou l'écrivain,
suis comme vous.
Quoi, bien sûr. Je n'arrive pas beaucoup à... Je ne peux pas adhérer, quoi.
Ouais. Je cherche le nom de ce philosophe espagnol catholique qui a été proche de Bergamine. Vous avez lu Bergamine ?
Non.
C'est très beau aussi.
Oui, pareil. Oui,
c'est très beau.
Oui.
Sur l'analphabétisme que devrait être le nôtre. Vous l'avez un peu dit d'ailleurs en début d'émission, lorsqu'on aborde la poésie. Être analphabète ou être comme un enfant plutôt.
Bien sûr. Bien
dans
sûr.
L'innocence.
Mmh.
Et il a écrit un beau livre sur... une sorte d'éloge de l'analphabétisme. Bergamine. Oui, il y a des rencontres que pour X hasard, on ne fait pas.
C'est
avec
vrai,
les
on ne sait pas pourquoi.
Oui, enfin, oui.
Ça ne se fait pas. Ou inversement, tout à coup, un jour, on prend un livre, et puis ça va déterminer plein de choses. Quoi.
En tout cas, Giacometti m'a permis de vous lire, et j'en étais de lire celui-ci. Entre autres, et j'en étais très heureuse. Et j'ai vu que vous aviez écrit une traversée de la nuit.
Oui, bien sûr, oui.
Mais une traversée... Et
tout un parcours, quoi.
Tout un parcours, pas seulement dans un musée, une nuit.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Claire Levasseur, et comme chaque semaine, avec la collaboration de Thierry Beauchamp et François Connac à la réalisation, vous trouverez toutes les actualités de Charles Julliet et Lydie Salvaire sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. Je signale la tenue pour quelques jours encore de l'exposition Giacometti au Musée d'Art Moderne de Villeneuve-d'Ascq. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure, et c'est heureux, de la méthode scientifique de Nicolas Martin.